Dès ce jour, Octavine s'était renfermée dans une hautaine et permanente réprobation dès qu'elle considérait que son fils, et à plus forte raison sa bru, ne suivait pas la ligne ou les orientations qu'elle eût elle-même prises si on lui en avait laissé la possibilité. Souvent muette, mais ses regards étaient éloquents, il lui arrivait parfois de ne plus tenir et de tenter de reprendre la main. En ce 2 août 14, elle n'avait pu résister.
Tu ne vas pas au village? Moi, je suis sûr qu'ils t'attendent tous à la mairie, lança Octavine pour la troisième fois.
Vous me fatiguez, mère, coupa Jean, en sortant sa pierre à aiguiser du coffin bourré d'herbe humide suspendu à sa ceinture. Oui, vous me fatiguez, redit-il, en commençant à affûter sa faux.
Je n'irai pas à la mairie car je n'ai rien à y faire. Rassurez-vous, j'ai tout prévu pour demain. Mais en attendant, il ne fait pas nuit et je veux mettre au moins les deux tiers de cette pièce de froment par terre avant que la lune ne soit levée.
Allons, assez perdu de temps, cette guerre qui nous arrive suffira bien pour le gaspiller.
Il passa prudemment le pouce sur le fil de la lame pour s'assurer de son bon affûtage, se tourna vers le blé et reprit son travail. Mais il n'en avait pas fini avec sa mère, car à peine avait-il mis bas la valeur d'une gerbe qu'elle relança.
Et demain, qui finira le travail, hein? Qui moissonnera? Qui rentrera toutes ces gerbes?
Vous, ainsi que Mémé et Marthe. D'ailleurs, dès demain et mon départ, Marthe vous dira ce qu'il convient de faire pour tout.
Quoi? Tu veux que...
balbutia Octavine.
Et moi alors? Je ne suis plus rien? Je n'existe plus?
Vous êtes ma mère, pas ma femme. C'est Marthe et elle seule qui décidera ma place. Et tout ce qu'elle dira devra être fait, exactement comme si c'était moi qui parlais.
Alors, je n'ai droit qu'à me taire. Tu me rejettes.
Pas du tout. Mais pour la ferme, n'oubliez pas que les 2 hectares que nous avons achetés en début d'année sont autant à Marthe qu'à moi, que j'en ai déjà 6 qui me viennent de mon pauvre père et que vous n'en avez apporté qu'un seul en dot. Et maintenant, à cette parlotte, au travail.
Ils œuvrèrent jusqu'à la nuit, et lorsque Jean, n'y voyant plus assez, cessa de balancer sa faux, il restait moins du tiers du champ de blé encore sur pied.
« Je pense que tu pourras tout finir demain, » dit-il en détachant le coffin de sa ceinture et en le tendant à Marthe.
« J'essaierai, » dit-elle.
« Tu réussiras, mais bats bien la faux avant d'attaquer. Avec tous ces orages qui ont retardé la moisson, la paille est dure comme du poil de chien. » Alors bat ta lame aussi souvent que nécessaire. Tu sauras?
Il faudra bien.
Oui, soupira-t-il en marchant vers la ferme.
Il faudra bien, pour ça et pour le reste. Pour tout le reste.
Mais dis, tu seras vite de retour. Ça ne durera pas,
chuchota Marthe. Elle était blottie contre la poitrine de Jean et était encore tout alanguie, quiète. Parce qu'il n'était pas sûr que les enfants dorment, pas plus qu'Octavine et la mémé, il s'était aimé dans l'obscurité, avec fougue, mais en silence. Maintenant, loin de pouvoir trouver le sommeil, l'un et l'autre, sans trop l'avouer, étaient assaillis par tous les soucis et déjà par la crainte que levait la mobilisation générale.
« Vite revenu !»
murmura-t-il.
« Oui, j'espère. Enfin, c'est ce que pense tout le monde. Et c'est bien ce que dit le journal, tu as bien vu. »
Abonné au courrier du centre, il avait suivi l'évolution de la situation et n'était pas loin de partager l'opinion générale. À savoir qu'on défilerait à Berlin dans moins de 2 mois, et que tout le monde serait donc de retour chez soi pour commencer les labours d'automne.
« Et si ça dure plus que prévu ?»«
Mais non, mais non !»
dit-il en la calmant d'une caresse sur la hanche.
« J'ai peur de devoir partir et de ne pas savoir ce qu'il faut faire sur la ferme, »
avoua-t-elle.
« Peur aussi de ta mère. Tu sais bien qu'elle ne m'aime pas. Alors qu'est-ce que je vais devenir si elle ne veut pas m'écouter ?»« Tout ira bien. Je lui redirai dès demain, avant de m'en aller, que c'est toi la patronne et toi seule. et que je me fâcherai très fort si je vois que tout n'a pas bien marché quand je reviendrai dans quelques semaines. Maintenant, il faut dormir. La nuit va être courte. L'omnibus qui passe à Noailles à 7h06 ne nous attendra pas. Et je n'ai pas envie d'aller à Brive-à-Pied. Dors !»
insista-t-il en lui passant doucement la main sur le visage pour lui abaisser les paupières.
« Je vais dormir !»
assura-t-elle, tout en sachant que désormais et chaque soir jusqu'à ce que Jean revienne, le sommeil la fuirait. C'est en serrant les mâchoires que Marthe, toute sa volonté tendue pour ne pas pleurer, regardait disparaître Jean au bout du chemin qui serpentait vers Noailles. Cramponnés à sa jupe, Louise et Albert, impressionnés par les larmes de leur grand-mère et de leur arrière-grand-mère, y allaient eux aussi de leurs pleurs. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur père, revêtu de ses habits du dimanche et après avoir suspendu sa musette à l'épaule, avait embrassé tout le monde avec une force inhabituelle. En temps normal, quand il allait à la foire ou au marché à Brive, il le faisait sans ses démonstrations, sans proférer toutes ses recommandations. Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire, mobilisation générale? Et en plus, pourquoi leur proche voisin, Édouard Fex, de la ferme du Pradel, lui aussi endimanché et besaceau d'eau, était venu rejoindre leur père et était parti avec lui? Et pourquoi, lui aussi, paraissait si sérieux, grave?
« Pourquoi il s'en va, papa ?»
demanda enfin Louise en reniflant.
« Et où il va ?»
insista Albert. « Je vous expliquerai, » dit Marthe, en espérant qu'aucun des sanglots qu'elle retenait n'allait déformer sa voix. Elle savait ne devoir faiblir en aucune façon. Désormais, la fermeté, voire même la rudesse, devait être sa ligne de conduite. Faute de quoi, elle le devinait, sa belle-mère profiterait de sa plus petite manifestation de faiblesse pour reprendre aussitôt les guides et gouverner toute la maison. Elle serait alors reléguée à la place que lui destinait Octavine, celle d'une belle-fille non souhaitée qui n'a pas son mot à dire et qui se doit juste d'obéir et de se faire oublier. « Bien, on va d'abord s'occuper des bêtes, » décida-t-elle. Après quoi, et vu le beau temps et la chaleur qui se préparent, on ira finir de moissonner la pièce longue.
« Moissonner ?» sursauta Octavine. « Mais vous déparlez, ma pauvre petite. Et la messe, vous y pensez, hein? On est dimanche, que je sache, et il fait beau voir que... »«
On ira moissonner, que ça vous plaise ou non. C'est ce qu'a décidé Jean, et on le fera. Et si vous n'êtes pas d'accord, il est encore temps de courir derrière lui et de le rattraper pour le lui demander. »
lâcha Marthe, d'un ton dont la dureté l'étonna elle-même.
« Mais la messe !»
protesta Octavine.
« Si vous voulez m'en croire, il faudra vous en passer aujourd'hui et même les dimanches à venir. N'oubliez pas que le curé Fraisse est de la même classe que Jean et qu'ils ont fait leur temps ensemble à Brive. Alors lui aussi est sûrement en marche vers la gare de Noailles, ainsi que tous les hommes du pays, sauf les moines de 20 ans et les vieux de plus de 50. » Et tout à l'heure, ils seront tous à la caserne brune, même notre curé. Alors votre messe? Bon, je vais faire téter le veau et traire. Vous et mémé, nourrissez la truie et sortez les brebis. Après quoi, on ira finir de moissonner.
Mais on est dimanche!
Essaya Octavine.
Et le dimanche chez nous, on ne travaille pas. On n'est pas des païens quand même.
On a toujours travaillé quand le temps menaçait et que ça pressait. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dimanche prochain, on verra.
« Eh bien, vous moissonnerez sans moi !»
décida Octavine, de plus en plus furieuse.
« Vous voulez jouer au finaud avec moi? On verra bien qui gagnera. Mais croyez-moi, ce n'est pas une pironnelle comme vous qui me commandera !»
Marthe allait répliquer lorsque, à son étonnement, intervint la vieille Aurélienne. Elle s'était jusque-là contentée de suivre la joute oratoire. Prudente, car connaissant bien sa fille, elle s'était gardée de prendre parti, quasiment assurée qu'Octavine emporterait la victoire. Elle estimait inutile de s'attirer son courroux. Mais la tenue, le ton et les propos de Marthe l'avaient surprise. Elle s'était revue 50 ans plus tôt, alors que, jeune mariée, elle avait dû affronter les diatribes de sa belle-mère. Elle n'avait pas osé lui tenir.